Jésus, merci pour ce temps de louange qui t'a fait du bien, qui m'a fait du bien, qui nous a purifiés, qui nous a aérés, qui nous a permis de te voir maintenant. Et j'aimerais te demander de prier, de bénir maintenant tout spécialement Thomas, qui va nous parler de toi en ton nom, parce que c'est ta parole qui sera proclamée. Seigneur, merci pour lui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Voilà, bonjour à chacun, chacune, et je dis à dessein chacun, chacune, et en particulier ceux qu'avec Françoise, avec notre famille, nous avons croisés ici il y a bien longtemps. Il ne faut pas trop que je vous regarde en détail parce que je risque un peu de craquer, parce que ça fait quelque chose après 20 ans de voir des personnes avec qui on a partagé, avec qui on, ben voilà, qu'on a aimé, qu'on aime toujours, mais ben voilà, plus à distance. Voilà, merci de pouvoir être là ce matin. J'aimerais vous transmettre les cordiales salutations de la famille Salamoni, en particulier de Myriam, qui est née pendant qu'on était ici, puis de Jérôme, de Cosette, qui n'ont pas tellement vu l'église de Villars, mais qui ont pu goûter un petit peu aux conséquences de ce lieu, en particulier par rapport à mon service pastoral, qui a été confirmé dans cette église. Et puisque j'y suis toujours, ça veut dire que vous avez fait du bon travail. Moi, je ne fais peut-être pas toujours du bon travail, mais vous avez permis que je puisse être confirmé dans un ministère pastoral, et c'était pour moi très important. Salutations aussi de l'église évangélique de l'Arc-en-Ciel, à Glan. C'est là que je sers depuis une année et demie avec joie, en rencontrant aussi bien des défis. Mais en revenant ici, en voyant quand même beaucoup de visages que je connais, puis bien sûr des nouveaux, je suis encouragé. Encouragé parce que je vois des frères et des sœurs qui ont persévéré, qui restent fidèles. Et c'est pas rien, aujourd'hui. Hier aussi, c'était pas rien, mais c'est vrai que la persévérance aujourd'hui, c'est un défi permanent. J'aimerais partager avec vous une thématique que j'ai très à cœur depuis longtemps. Je suis en train de finir une thèse pour une maîtrise en théologie sur le sujet de la croix. Et ce matin, j'aimerais en particulier parler de la croix comme moyen de réconciliation entre l'homme et Dieu et entre les hommes entre eux. Et le Seigneur, le maître de l'Église, sait à quel point la réconciliation, le pardon et la réconciliation restent des défis quasi journaliers, permanents pour notre vie de foi. Je vous invite à écouter ensemble un texte, il va aussi apparaître sur le rétroprojecteur. Donc la thématique, c'est la croix et la résurrection du Christ incarné dans la communauté chrétienne. Et les amis, la communauté chrétienne, c'est vous, hein ? Il y en a d'autres, mais c'est parmi vous que la croix et la résurrection du Christ sont incarnées, s'incarnent dans ce monde. Ou alors, si ça ne se passe pas dans l'Église, c'est que le Seigneur doit trouver d'autres moyens, mais c'est bien l'Église qui est le résultat de cela. Donc, si vous me suivez jusque-là, vous êtes en plein dans le thème et dans le défi du thème. Je vous invite à écouter ensemble 2 Corinthiens 5, 14 à 6, 2, si vous voulez suivre dans vos Bibles, je vous laisse le temps de les ouvrir. Sinon, le texte va aussi être affiché au rétroprojecteur. Et si vous préférez simplement écouter, bonne écoute. L'apôtre Paul écrit « En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. » Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. On pourrait aussi traduire ici « fait partie d'une nouvelle création ». Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. On peut dire tout à fait littéralement ici, afin qu'en lui, en Christ, nous devenions justice de Dieu. Ainsi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. J'ai eu l'occasion, il y a un mois environ, de partir pour 2 semaines en Côte d'Ivoire pour partager avec des églises en Côte d'Ivoire sur le sujet de la reconstruction et de la réconciliation. Ça a été organisé avec la mission biblique pour la Côte d'Ivoire et l'Haïti. J'ai donc pas mal plongé dans ces textes et en même temps dans la réalité africaine d'un pays d'après-crise, un pays où la sécurité n'est pas encore assurée, garantie. Donc il faut continuer à prier pour ce pays. Et en même temps où les hommes, les femmes que j'ai rencontrés ont avant tout un besoin, un désir, la paix. La paix. Il y a de cela 3 semaines, j'ai pu prêcher dans l'église Mans Nord, donc au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et puis j'ai aussi prêché sur ce texte. Dans cette église, au début, à l'accueil, c'est assez sympa, ils prennent le temps, hein, ils ont le temps, on demande qui est nouveau. Et puis, on fait lever ceux qui sont nouveaux. Et puis les gens peuvent dire d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Et puis une des présentations, c'était assez surprenant pour moi. J'ai essayé de bien comprendre, je n'ai pas toujours tout bien compris parce qu'il y a certains qui parlaient en Yakuba. Alors là, je n'ai rien compris du tout. Et puis même s'ils parlaient français, c'était un peu difficile à suivre des fois, vous savez, l'accent ou l'intonation africaine. Je n'ai pas trop l'habitude, mais là j'étais un peu intrigué, il y avait un jeune homme qui s'était levé, qui s'est présenté, et puis il a dit qu'il était là, et puis j'ai compris qu'en fait il était là, et puis il voulait notamment donner sa vie à Jésus-Christ. Comme ça, dans l'accueil, au début du culte, et puis le président, il a dit, mais vous êtes sûr, vous voulez vraiment accueillir Christ dans votre cœur, vous voulez vous convertir? Et puis le monsieur a dit oui, puis alors le président a dit, ben voilà, vous le faites maintenant. Ben bienvenue. Puis tout le monde a applaudi, vous vous rendez compte de ça. C'est quand même génial. Alors ça m'a beaucoup touché, je me suis dit, c'est assez génial. D'autant plus que j'allais prêcher sur ce texte où il est justement question de nouvelles créations. Donc si j'ai bien compris, là, c'est passé pendant l'accueil dans le culte, une nouvelle création. Alors bien sûr, j'imagine il y a eu une histoire avant pour ce jeune homme, etc. Mais voilà, c'est bien ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai trouvé ça assez stimulant, je dois dire. C'est génial. Est-ce que quelqu'un... Non, bon, on va s'arrêter là. Tout cela pour dire que c'était une belle introduction, finalement, dans ce thème de la nouvelle création. Parce que dans ce texte ici, et vous l'avez entendu tout à l'heure, Paul parle notamment de la nouvelle création, nouvelle créature, la nouvelle création. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. ce que c'est. Pour Paul, il y a quelques textes qui parlent de cela. La nouvelle création, c'est une manière de parler de l'action du Saint-Esprit dans le présent sur le fondement de la mort et de la résurrection du Christ. Et au niveau expérimental, au niveau de notre expérience, ça veut dire que nous participons dans le présent par le Saint-Esprit à la vie de Dieu, à la vie du Christ en nous. Je m'excuse, c'est rien de moins que cela. Hein? Nouvelle création. Et quand nous sommes reliés au Christ et quand l'Esprit vient animer et transformer notre vie, des fois ça prend beaucoup de temps, il est très patient, il travaille beaucoup avec nous, ça fait partie de cette nouvelle création. Ici et maintenant, c'est comme une anticipation de ce qui est à venir. Ça a l'air peut-être un peu compliqué, mais il faut se laisser un peu imprégner par cela. C'est assez génial. C'est assez génial si on y pense. Dieu qui vient partager sa vie avec nous. Et puis ça, c'est la vie vers laquelle nous allons. C'est la vie à laquelle nous aspirons de la vivre un jour en plénitude. Mais nous goûtons déjà à cela maintenant. Dans notre texte, le vocabulaire de la nouvelle création est assez bien présent et plutôt intriguant. J'essaye maintenant de voir un peu plus dans le détail ce que ça peut vouloir dire. Alors d'abord, faut se rappeler qui c'est qui parle de cela. C'est l'apôtre Paul. Et vous vous souvenez peut-être que sur le chemin de Damas, on revient souvent à cela, mais c'est assez important pour comprendre la perspective de Paul. Paul, qui, alors Saul de Tarse, hein, il persécutait les chrétiens. Et puis Jésus-Christ ressuscité s'est révélé à lui. Paul est tombé par terre, il a été aveuglé, puis Jésus lui a parlé, il s'est identifié à Paul, il a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Et là, Paul, à ce moment-là, Paul a compris dans son cœur, où il a commencé à comprendre que ce Jésus, que les chrétiens confessaient comme mort et ressuscité, était vraiment ressuscité. Alors il était aveuglé, et puis Jésus l'a envoyé, a dit « Va jusqu'à Damas et là tu vas rencontrer quelqu'un et puis tu vas savoir ce qu'il faut faire après ». Paul est effectivement allé à Damas et là Jésus a envoyé un de ses disciples de Damas qui a prié pour Paul, qui a vu de nouveau, qui a recouvert la vue, c'est un mot un peu embêtant, qui a recouvré la vue et puis Paul a vu. Et ce dont on se rend compte quand on suit un peu les écrits de Paul par la suite, Paul a recouvré la vue, mais en même temps, c'est comme si il avait reçu des lunettes. Il avait reçu les lunettes, on peut dire les lunettes de Jésus, et à partir de ce moment-là, Paul ne pouvait plus regarder le monde en dehors de Jésus. Tous ceux qu'il voyait, il les voyait comme étant potentiellement au bénéfice de l'œuvre du Christ. Et tout ce qu'il a fait à partir de ce moment-là, il l'a fait pour que d'autres puissent découvrir cette vie nouvelle, puissent voir avec leurs yeux spirituels le Christ ressuscité qui se révèle encore et toujours, et même après 2000 ans, et qui aujourd'hui encore, par son esprit, vient transformer notre regard, vient nous aider à voir nous-mêmes, nos vis-à-vis, à la lumière du Christ. Ça va? Vous suivez? Je pose la question, c'est pas un machin. C'est parce que c'est pas très, très évident, cette notion de cette nouvelle création, de cette vie dans la présence du Christ. Mais c'est bien cela. Et tout cela, attention, ce n'est pas avant tout une sorte de théorie, une sorte de philosophie qu'il faut essayer de croire un maximum. Tout cela est basé sur la logique de la croix. La logique de la croix. De la croix et de la résurrection, les deux. La croix... Fondamentalement, la signification de la croix, pour nous, dans sa mort, Jésus emporte le juste jugement que méritent nos péchés. Le mal qui nous habite, qui nous colle dessus, Jésus vient nous en libérer, il vient surtout nous libérer du juste jugement qui nous incombe à cause de ce mal Jésus prend cela sur lui, il l'emporte. On pourrait parler de la croix comme manifestant la justice punitive de Dieu. C'est vrai qu'il y a là quelque chose qui se passe, qui reste en partie mystérieux. On ne peut pas l'expliquer entièrement, mais Dieu a choisi là de manifester que le jugement qui nous incombe à nous, Jésus le prend sur lui. Et puis il y a la résurrection. Il y a et la mort et la résurrection du Christ qui font partie de cet acte de justification. Ok, on comprend la notion de punition, mais il y a aussi la résurrection. Et la punition ne ferait aucun sens s'il n'y avait pas la résurrection. Imaginez, si on restait finalement pardonné aujourd'hui, maintenant, mais après rien ne change. Après, il n'y a pas une vie nouvelle. Mais il y a la résurrection. Et la résurrection de Jésus, par la résurrection, Jésus inaugure cette nouveauté, une nouvelle humanité à laquelle nous participons par le Saint-Esprit. En termes d'identité, de qui je suis au plus profond de moi-même, ça veut dire enfant du Père céleste. Hein ? Amen. Yes, Nevenka est toujours là, super. Frère, disciple, sœur, disciple de Jésus-Christ, et puis temple du Saint-Esprit. C'est ça cette nouveauté, une nouveauté avant tout relationnelle. Ça va, vous suivez toujours ? C'est un peu, j'admets que c'est un peu compliqué, mais plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est fort. Il y a ces deux éléments. Il y a la mort et nous continuons aussi à participer à cette mort chaque fois quand nous confessons nos péchés, chaque fois quand nous faisons face à ce qui n'est pas encore nouveau en nous. Mais par l'Esprit, nous participons aussi à la nouvelle vie. Et c'est ce que Dieu veut, des vies en train de transformation. Voilà la logique de la croix. C'est vrai que ça fait un gros morceau, si vous voulez, de théologie biblique. Et puis si vous avez décroché, ce n'est pas très grave, vous raccrocherez à l'occasion, mais dans la durée, c'est extrêmement important d'intégrer des choses. Hein, on est pour ça qu'on vient tous les dimanches au culte, enfin plus ou moins, c'est pour ça qu'on continue à approfondir la Bible. Notre vision du monde, elle doit être basée, fondée, toujours davantage sur la parole et sur l'intégration de la parole. Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19, Paul approfondit cette réalité. Donc je l'ai en gros résumé. Donc on peut aller plus loin. À 5, 20 à 21, et là j'aimerais simplement vous relire ces deux versets que nous avons entendus tout à l'heure. 2 Corinthiens 5, 20 à 21, où Paul dit: nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Où j'ai dit tout à l'heure, on peut traduire aussi, enfin littéralement, afin qu'en lui, qu'en Christ, nous devenions justice de Dieu. Il y a deux choses dans ce texte que j'aimerais souligner. La première, c'est cette notion d'ambassadeur. Au moment où Dieu, par son œuvre, par son esprit, nous intègre dans son corps. Si on pense à l'événement que j'ai rappelé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, ce jeune homme qui s'est converti au début du culte. À partir de ce moment, alors on devient enfant du Père, frère, sœur du Christ, et par l'esprit, on devient en même temps, à ce moment-là, ambassadeur du Christ, dépositaire du message dont on est bénéficiaire. Ambassadeur. ambassadeurs, et pas seulement des Paul ou des pasteurs ou des évangélistes, etc., mais chaque chrétien, je crois que ça c'est légitime de pouvoir déduire, pas seulement de ce texte, mais de l'ensemble du Nouveau Testament. En réfléchissant à cette notion d'ambassadeur, j'ai pensé l'autre jour, c'est quand même marrant, en entrant dans ce peuple nouveau, nous devenons membres d'un peuple où chaque membre du peuple est ambassadeur. Vous avez réfléchi à ça? C'est assez particulier. La Suisse est là, un ambassadeur en Côte d'Ivoire et ailleurs. Des fois, on les retire parce que c'est des fois un peu dangereux. Mais c'est quand même frappant que dans le peuple de Dieu, Dieu n'a que des ambassadeurs. Chacun. Même les petits-enfants qui connaissent le Seigneur Jésus. Pardon. Pas trop intrusif là, hein. C'est rigolo. Vous avez réfléchi à ça? Pourquoi? Mais parce que le pays qui appartient au Seigneur, c'est le monde. Et nous sommes envoyés dans le monde. Et Dieu, il voit assez grand, toujours. Il aimerait bien que chaque être humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse appartenir en son règne. D'où l'importance des ambassadeurs. Il y a un deuxième élément, et je l'ai bien souligné en lisant ce texte. Dieu dit ici, l'objectif c'est que nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir justice de Dieu? C'est là que je rejoins, et je vais gentiment conclure avec ça, le titre de ce message. Devenir justice de Dieu, comme je le comprends, ça veut dire précisément incarner le message, donner corps au message. Et c'est une tâche à la fois personnelle, dans ma vie, on peut dire de consécration personnelle, dans ma manière de vivre à la suite du Christ, de vivre dans la pureté. Chaque jour, l'hygiène personnelle. Et c'est un peu embêtant parce que ce n'est pas très original. Vous demandez à vos aînés. S'ils sont toujours là, c'est qu'ils ont gardé cette hygiène à quelque part. C'est qu'ils ont persévéré dans ce chemin de sainteté. Ou en tout cas, ils restent toujours en route. Ça, c'est au niveau tout à fait personnel. Et là, on a des fois besoin des autres aussi, hein, pouvoir être encouragé, pouvoir savoir que même ici à l'église de Villars, je peux me donner toute l'apparence, mais au fond, les autres savent très bien que moi aussi, je dois lutter contre le péché. Donc il y a la dimension personnelle, et puis il y a avant tout, et c'est là-dessus que j'aimerais mettre l'accent final, cette importance de la communauté, d'être un lieu d'entraînement, un lieu où on apprend un style de vie par lequel nous désapprenons le péché et apprenons les chemins de vie de Dieu, une vie consacrée, aussi communautairement, aussi ensemble, où nous reconnaissons que nous sommes une communauté d'êtres fondamentalement brisés, chacun à quelque part, mais en train d'être restauré. Ça ne fait peut-être pas très, très attrayant à premier abord. Hein. C'est pas la communauté des héros d'emblée, alors on peut un peu avancer, progresser. Mais c'est un peu ça la réalité du corps du Christ. Et là-dedans, quand nous apprenons à reconnaître cela, à développer ensemble une vie consacrée, après, quand il y a des situations de rupture, il y a peut-être plus de liberté de travailler dans des instances spécifiques, telle relation qui est brisée ou qui semble irrécupérable, de travailler, de s'engager sur le chemin du pardon, le pardon qui est la porte par laquelle nous sommes appelés à passer pour la réconciliation. Alors évidemment, après, dans la pratique, le chemin du pardon est des fois long, est des fois compliqué, mais rappelons-nous, si nous y travaillons, nous laissons, ne serait-ce que dans notre intention, dans notre orientation, nous laissons le Seigneur briller sa lumière dans notre présent. Et parfois, une des premières manières de reconnaître et d'accueillir la vie nouvelle, c'est de reconnaître que la vie ancienne, elle est encore là. Mais qu'on ne veut pas l'ignorer, on ne veut pas essayer de la supprimer, de reconnaître qu'avec tel frère, telle sœur, telle situation concrète, je ne vis pas le pardon et la réconciliation et que je veux m'accrocher, demander le secours à Dieu, à des frères et des sœurs, à la famille peut-être, à des amis, pour rester orienté et essayer de travailler sur le chemin de la réconciliation. J'aimerais finir donc sur ce terrain d'entraînement et d'encouragement qu'est la vie communautaire, nous nous formons continuellement pour être des artisans de paix dans nos divers lieux de vie. C'est vraiment là qu'on est appelé à l'apprendre parce que les uns et les autres, nous avons ouvert nos cœurs au Christ et à l'Esprit. Et pour terminer, peut-être de nouveau avec l'Afrique, j'ai été profondément touché, j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'enseigner un petit peu ces étudiants à l'Institut biblique de Mans et à quelque part c'est eux qui m'ont enseigné parce que quelle que soit la qualité de l'enseignement que j'ai pu diffuser, ces jeunes avaient envie d'être enseignés sur la réconciliation. Ce sont des futurs pasteurs qui vont aller dans des communautés, bientôt certains, d'un pays qui a été déchiré par la guerre et où l'Église, en partie, a été déchirée par la guerre. Et ils ont dit, mais ne nous oublie pas, ne nous oubliez pas, en Europe, nous avons du travail. Mais on veut être des artisans de paix. Et c'est en cela qu'ils m'ont enseigné qu'avec tous les enjeux réellement considérables, et ça commence par la question, est-ce qu'il y aura quelque chose à manger sur la table, ils veulent être des artisans de paix au nom du Christ. En effet, l'amour du Christ nous étreint, écrit Paul. Au nom du Christ, nous vous en supplions, soyons réconciliés avec Dieu. On ne peut pas imposer le pardon et la réconciliation. Si je dis à quelqu'un, tu dois pardonner, j'ai encore pas forcément très bien compris quel est le fondement du pardon. Mais si je peux dire à quelqu'un, en tant que disciple du Christ, mettons-nous à son écoute, laissons son amour nous rejoindre, et nous former, nous transformer pour être des agents de réconciliation. Et ça va coûter peut-être très cher, mais c'est à cela que nous sommes appelés. Eh bien, Dieu sera honoré. Qu'il soit honoré dans nos vies personnelles, de couple, de famille, et dans la vie d'une communauté comme l'église de Villars. Permettez-moi de terminer par la prière. Seigneur Jésus, tu es le prince de paix, tu es même le maître artisan de paix. Et je te remercie de ce que je suis au bénéfice, de ce que nous sommes au bénéfice de ton œuvre de réconciliation. C'est toi qui es notre paix. Apprends-nous à être apprentis, faiseurs de paix. Apprenti de toi, le Maître. Et renouvelle en nous ton Saint-Esprit, la puissance de la vie nouvelle, pour que nous persévérions et que nous continuions dans cet apprentissage, chacun personnellement, mais aussi ensemble en tant que communauté. Glorifie le nom du Père au milieu de ton peuple, Jésus, par le Saint-Esprit. Amen.